Crime et châtiment, troisième partie, chapitre 5. Raskolnikov entra chez le juge d'instruction avec la physionomie d'un homme qui fait tout son possible pour garder son sérieux, mais qui n'y réussit qu'à grand-peine. Derrière lui marchait d'un air gauche Razoumikhin, rouge comme une pivoine, les traits bouleversés par la colère et par la honte. La personne dégingandée et la mine déconfite de ce grand garçon étaient alors assez drôles pour justifier l'hilarité de son camarade. Porfire Petrovitch, debout au milieu de la chambre, interrogeait du regard les deux visiteurs. Raskolnikov s'inclina devant le maître de la maison, échangea une poignée de main avec lui et parut faire un violent effort pour étouffer son envie de rire pendant qu'il déclinait ses noms et qualités. Mais à peine venait-il de recouvrer son sang-froid et de balbutier quelques mots, qu'au beau milieu de la présentation, ses yeux rencontrèrent, comme par hasard, Razoumikhin. Dès lors, il n'y put tenir, et son sérieux fit place à une hilarité d'autant plus bruyante qu'elle avait été plus comprimée. Razoumikhin servit à son insu les vues de son ami, car ce fou rire le mit dans une colère qui acheva de donner à toute cette scène une apparence de gaieté franche et naturelle. « Oh, le gredin !» hurla-t-il avec un violent mouvement du bras. Ce geste brusque eut pour effet de renverser un petit guéridon sur lequel se trouvait un verre qui avait contenu du thé. Mais pourquoi détériorer le mobilier, messieurs? C'est un préjudice que vous causez à l'État! S'écria gaiement Porfire Petrovitch. Raskolnikov riait à un tel point que pendant quelques instants il oublia sa main dans celle du juge d'instruction. Mais il aurait été peu naturel de l'y laisser trop longtemps. Aussi la retira-t-il au moment voulu pour rester dans la vraisemblance de son rôle. Quant à Razoumikhin, il était plus confus que jamais depuis qu'il avait fait choir une table et casser un verre. Après avoir considéré d'un air sombre les conséquences de son emportement, il se dirigea vers la croisée et là, tournant le dos au public, se mit à regarder par la fenêtre, sans, du reste, rien voir. Porfire Petrovitch riait par convenance, mais évidemment il attendait des explications. Dans un coin, sur une chaise, était assis Zametov. À l'apparition des visiteurs, il s'était levé à demi en ébauchant un sourire. Toutefois, il ne semblait pas dupe de cette scène et observait Raskolnikov avec une curiosité particulière. Ce dernier ne s'était pas attendu à trouver là le policier, dont la présence lui causa une désagréable surprise. « Voilà encore une chose à considérer, » pensa-t-il. « Excusez-moi, je vous prie, » commença-t-il avec un embarras simulé. « Raskolnikov. Allons donc, vous m'avez fait grand plaisir, vous êtes entré d'une façon si agréable. Eh bien, il ne veut pas même dire bonjour ?» ajouta Porfire Petrovitch en montrant d'un signe de tête Razoumikhin. Je ne sais pas vraiment pourquoi il est fâché contre moi. Je lui ai seulement dit en chemin qu'il ressemblait à Roméo, et je lui ai prouvé. Il n'y a rien eu de plus.
Cochon !
Cria Razoumikhin sans retourner la tête. Il a dû avoir des motifs très sérieux pour prendre en si mauvaise part cette petite plaisanterie, observa en riant Porfire Petrovitch. Voilà bien le juge d'instruction, toujours sondeur. Allons, que le diable vous emporte tous, répliqua Razoumikhin, qui se mit lui-même à rire. Il avait soudain recouvré toute sa bonne humeur et il s'approcha gaiement de Porfire Petrovitch. Trêve de sottises, à notre affaire. « Je te présente mon ami Rodion Romanovitch Raskolnikov, qui a beaucoup entendu parler de toi et désire faire ta connaissance. Ensuite, il a une petite affaire à traiter avec toi. Bah. Zametov, par quel hasard es-tu ici? Vous vous connaissez donc? Depuis quand ?»« Que veut dire encore cela ?» se demanda avec inquiétude Raskolnikov. La question de Razoumikhin parut gêner un peu Zametov. Toutefois, il se remit vite. « C'est hier chez toi que nous avons fait connaissance, » dit-il d'un air dégagé. Alors la main de Dieu a tout fait. Figure-toi, Porphyre, que la semaine passée, il m'avait témoigné un très vif désir de t'être présenté. Mais il paraît que vous n'avez pas eu besoin de moi pour entrer en relation l'un avec l'autre. Tu as du tabac ? » Porphyre Petrovitch était en négligé du matin. Robe de chambre, pantoufles éculées, linge très propre. C'était un homme de 35 ans, d'une taille au-dessous de la moyenne, gros et même légèrement ventru. Il ne portait ni barbe ni moustache et avait les cheveux coupés ras. Sa grosse tête ronde présentait une rotondité particulière dans la région de la nuque. Son visage bouffi, rond et un peu camard, ne manquait ni de vivacité ni même d'enjouement, bien que le teint d'un jaune foncé fût loin d'annoncer la santé. On aurait pu trouver de la bonhomie dans cette figure, sans l'expression des yeux, qui, abrités sous des cils presque blancs, semblaient toujours clignoter comme pour adresser des signes d'intelligence à quelqu'un. Le regard de ses yeux donnait un démenti étrange au reste de la physionomie. À première vue, le physique du juge d'instruction offrait quelque analogie avec celui d'une paysanne. Mais ce masque ne trompait pas longtemps un observateur attentif. Dès qu'il eut appris que Raskolnikov avait une « petite affaire » à traiter avec lui, Porphyre Petrovitch l'invita à prendre place sur le divan, s'assit lui-même à l'autre bout et se mit à sa disposition avec le plus grand empressement. D'ordinaire, nous nous sentons un peu gênés quand un homme que nous connaissons à peine manifeste une telle curiosité de nous entendre. Notre embarras est plus vif encore si l'objet dont nous avons à parler se trouve être, à nos propres yeux, peu digne de l'extrême attention qu'on nous témoigne. Néanmoins, Raskolnikov, en quelques mots courts et précis, exposa nettement son affaire. Il put même, chemin faisant, observer assez bien Porphyre Petrovitch. Celui-ci, de son côté, ne le quittait pas des yeux. Razoumikine, assis en face d'eux, écoutait avec impatience, et ses regards allaient sans cesse de son ami au juge d'instruction et vice-versa, ce qui passait un peu la mesure. L'imbécile, pestait intérieurement Raskolnikov. Il faut faire une déclaration à la police, répondit de l'air le plus indifférent Porphyre Petrovitch. Vous exposerez comme quoi, informé de tel événement, c'est-à-dire de ce meurtre, vous désirez faire savoir au juge d'instruction chargé de cette affaire que tels objets vous appartiennent et que vous voulez les dégager. Ou... Mais du reste, on vous écrira. Par malheur, reprit Raskolnikov avec une confusion jouée, je suis loin d'être en fond pour le moment, et mes moyens ne me permettent même pas de dégager ces niaiseries. Voyez-vous, je voudrais me borner actuellement à déclarer que ces objets sont à moi, et que, quand j'aurai de l'argent... Cela ne fait rien, répondit Porphyre Petrovitch, qui accueillit froidement cette explication financière. Du reste, vous pouvez, si vous voulez, m'écrire directement. Vous déclarerez qu'instruit de telles choses, vous désirez me faire savoir que tels objets vous appartiennent et que... Je puis écrire cette lettre sur papier libre ? Interrompit Raskolnikov, affectant toujours de ne voir que le côté pécuniaire de la question. Oh, sur n'importe quel papier ! Porphyre Petrovitch prononça ces mots d'un air franchement moqueur, en faisant un petit signe des yeux à Raskolnikov. Du moins, le jeune homme aurait juré que ce clignement d'yeux s'adressait à lui et trahissait le diable savait quelle arrière-pensée. Peut-être, après tout, se trompait-il, car cela dura à peine l'espace d'une seconde. « Il sait !» se dit-il instantanément. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé pour si peu de choses, » reprit-il assez déconcerté. « Ces objets valent en tout 5 roubles. » Mais leur provenance me les rend particulièrement chères, et j'avoue que j'ai été fort inquiet quand j'ai appris... C'est pour cela que tu as été si secoué hier, en m'entendant dire à Zosimov que Porphyre interrogeait les propriétaires des objets mis en gage, remarqua avec une intention évidente Razoumikine. C'en était trop. Raskolnikov n'y put tenir et lança au malencontreux bavard un regard flamboyant de colère. Aussitôt après, il comprit qu'il venait de faire une imprudence et il s'efforça de la réparer. « Tu as l'air de te moquer de moi, mon ami, » dit-il à Razoumikine en affectant une vive contrariété. « Je reconnais que je me préoccupe peut-être trop de choses absolument insignifiantes à tes yeux, mais ce n'est pas une raison pour me regarder comme un homme égoïste et avide. Ces misères peuvent n'être pas sans valeur pour moi. Comme je te le disais tout à l'heure, cette montre en argent, qui vaut un croc, est tout ce qui me reste de mon père. » Libre à toi de te moquer de moi, mais ma mère est venue me voir. » Ce disant, il s'était tourné vers Porphyre. Et si elle savait, continua-t-il en s'adressant de nouveau à Razoumikine, d'une voix aussi tremblante que possible, si elle savait que je ne suis plus en possession de cette montre, je te jure qu'elle serait au désespoir. Les femmes. « Pas du tout, ce n'est pas ainsi que je l'entendais. Tu t'es tout à fait mépris sur ma pensée, » protestait Razoumikine, désolé. « Est-ce bien? Est-ce naturel? N'ai-je pas forcé la note ?» se demandait anxieusement Raskolnikov. « Pourquoi ai-je dit les femmes ?»« Ah, votre mère est venue vous voir ?» questionna Porphyre Petrovitch. « Oui. Et quand donc est-elle arrivée ?» Hier soir. Le juge d'instruction resta un moment silencieux. Il paraissait réfléchir. Vos affaires ne pouvaient en aucun cas être perdues, reprit-il d'un ton calme et froid. Depuis longtemps déjà, j'attendais votre visite. En achevant ces mots, il approcha vivement le cendrier de Razoumikine, qui secouait impitoyablement sur le tapis la cendre de sa cigarette. Raskolnikov frissonna. Mais le juge d'instruction n'eut pas l'air de s'en apercevoir, tout occupé qu'il était à préserver son tapis. « Comment ? Tu attendais sa visite ? Mais est-ce que tu savais qu'il avait engagé quelque chose, là ?» cria Razoumikine. Sans lui répondre, Porphyre Petrovitch s'adressa à Raskolnikov. « Vos affaires, une bague et une montre, se trouvaient chez elle, roulées dans un morceau de papier, et sur ce papier... Votre nom était lisiblement écrit au crayon, avec l'indication du jour où elle avait reçu de vous ces objets. « Quelle mémoire vous avez pour tout cela ?» fit Raskolnikov avec un sourire contraint. Il s'efforçait surtout de regarder avec assurance le juge d'instruction. Toutefois, il ne put s'empêcher d'ajouter brusquement « J'ai fait cette observation parce que les propriétaires des objets mis en gage, étant sans doute fort nombreux, vous deviez, me semblait-il, avoir peine à vous les rappeler tous. Or, je vois au contraire que vous n'en oubliez pas un et... faible idiot, quel besoin avais-je d'ajouter cela ? Mais presque tous se sont déjà fait connaître. Vous seul n'étiez pas encore venu. » répondit Porphyre avec une nuance presque imperceptible de raillerie. Je ne me portais pas très bien. Je l'ai entendu dire. On m'a même appris que vous aviez été très souffrant. Maintenant encore, vous êtes pâle. Pas du tout. Je ne suis pas pâle. Au contraire, je vais très bien, répliqua Raskolnikov d'un ton devenu tout à coup brutal et violent. Il sentait bouillonner en lui une colère qu'il ne pouvait maîtriser. « L'emportement va me faire lâcher quelques sottises, » pensa-t-il. « Mais pourquoi m'exaspère-t-il » « Il ne se portait pas très bien. Voilà un euphémisme, par exemple, » s'écria Razoumikine. « La vérité, c'est que jusqu'à hier, il a été presque tout le temps sans connaissance. Le croiras-tu, Porphyre ? Hier. » Pouvant à peine se tenir sur ses jambes, il a profité du moment où Zosimov et moi venions de le quitter pour s'habiller, s'esquiver en catimini et aller flâner, Dieu sait tout, jusqu'à minuit. Tout cela en état complet de délire. Peux-tu t'imaginer une chose pareille? C'est un cas des plus remarquables.
Bah, vraiment, en état complet de délire, fit Porfir Petrovitch avec le hochement de tête propre aux paysannes russes.
C'est absurde, ne le croyez pas. Du reste, je n'ai pas besoin de vous dire cela. Votre conviction est faite.
Laissa échapper Raskolnikov, emporté par la colère. Mais Porfir Petrovitch ne parut pas entendre ces étranges paroles.
Comment donc serais-tu sorti si tu n'avais pas eu le délire?
Reprit en s'échauffant Razoumikhin.
Pourquoi cette sortie? Dans quel but? Et surtout, quelle idée de filer ainsi en cachette?
Voyons, conviens-en, tu n'avais pas ta raison. Maintenant que tout danger est passé, je te le dis carrément.
Il m'avait extrêmement ennuyé hier, dit Raskolnikov en s'adressant au juge d'instruction avec un sourire qui ressemblait à un défi. Et voulant me débarrasser d'eux, je suis sorti pour louer un logement où ils ne pussent me découvrir. J'avais pris à cet effet une certaine somme. Monsieur Zametov a vu l'argent entre mes mains. Eh bien, monsieur Zametov, étais-je dans mon bon sens hier ou avais-je le délire? Soyez juge de notre querelle.
Il aurait volontiers étranglé en ce moment le policier, qui l'irritait par son mutisme et l'expression équivoque de son regard.
Selon moi, vous parliez fort sensément, et même avec beaucoup de finesse. Seulement, vous étiez trop irascible,
déclara sèchement Zametov.
Et aujourd'hui, ajouta Porfir Petrovitch, Nikodim Fomitch m'a dit vous avoir rencontré hier, à une heure fort avancée de la soirée, dans le logement d'un fonctionnaire qui venait d'être écrasé par une voiture.
Eh bien, cela même vient encore à l'appui de ce que j'avance, reprit Razoumikhin.
Ne t'es-tu pas conduit comme un fou chez ce fonctionnaire? Tu t'es dépouillé de toutes tes ressources pour payer l'enterrement. J'admets que tu aies voulu venir en aide à la veuve, mais tu pouvais lui donner 15 roubles, 20 même à la rigueur, et garder quelque chose pour toi. Au lieu de cela, tu lâches tout, tu y vas de tes 25 roubles.
Mais j'ai peut-être trouvé un trésor, qu'en sais-tu? Hier, j'étais en humeur de faire des largesses. Monsieur Zametov, ici présent, sait que j'ai trouvé un trésor.
Pardon de vous avoir ennuyé pendant une demi-heure par un bavardage aussi oiseux,
poursuivit-il, les lèvres frémissantes, en s'adressant à Porfir.
Vous êtes excédé, n'est-ce pas?
Que dites-vous donc? Au contraire, au contraire. Si vous saviez comme vous m'intéressez, je vous trouve si curieux à voir et à entendre. J'avoue que je suis enchanté d'avoir enfin reçu votre visite.
Donne-nous donc du thé, nous avons le gosier sec,
cria Razoumikhin.
Excellente idée. Mais avant le thé, tu prendrais peut-être bien quelque chose de plus solide.
Sauve-toi.
Porfir Petrovitch sortit pour aller commander le thé. Toutes sortes de pensées tourbillonnaient dans le cerveau de Raskolnikov. Il était fort excité.
Il ne se donne même pas la peine de feindre. Ils n'y vont pas par 4 chemins avec moi. Voilà le point principal. Puisque Porfir ne me connaissait pas du tout, à quel propos s'est-il entretenu de moi avec Nikodim Fomitch? Ils dédaignent donc de cacher qu'ils sont à mes trousses comme une meute de chiens. Ils me crachent ouvertement à la face.
Se disait-il, tremblant de rage.
Eh bien, allez-y carrément. Mais ne jouez pas avec moi comme le chat avec la souris. C'est de l'impolitesse, Porfir Petrovitch.
Je ne permets peut-être pas encore cela. Je me lèverai. Je vous jetterai à tous la vérité au visage et vous verrez comme je vous méprise.
Il respira avec effort.
Mais quoi? Si tout cela n'existait que dans mon imagination? Et si c'était un mirage? Si j'avais mal interprété les choses?
Tâchons de soutenir notre vilain rôle et n'allons pas nous perdre comme un étourneau par une aveugle colère.
Est-ce que je leur prêterai des intentions qu'ils n'ont pas?
Leurs paroles n'ont en soi rien d'extraordinaire, c'est ce qu'on peut toujours dire. Mais là-dessous doivent se cacher des sous-entendus. pourquoi Porphyre a-t-il dit simplement « chez elle » en parlant de la vieille ? Pourquoi Zamétov a-t-il observé que j'avais parlé avec « beaucoup de finesse » ? Pourquoi ont-ils un pareil ton ? Oui, c'est ce ton. Comment tout cela n'a-t-il pas frappé Razoumikine ? Ce nigo ne s'aperçoit jamais de rien. Voilà que j'ai encore la fièvre. Est-ce que Porphyre m'a fait un clignement d'œil tantôt, ou ai-je été dupe d'une apparence ? C'est absurde, assurément. Pourquoi aurait-il cligné les yeux ? Peut-être veulent-ils m'agacer les nerfs, me pousser à bout ? Ou tout cela est de la fantasmagorie ? Ou ils savent ? Zamétov même est insolent. Il aura fait ses réflexions depuis hier. Je me doutais bien qu'il changerait d'avis. Il est ici comme chez lui, et il y vient pour la première fois. Porphyre ne le considère pas comme un étranger. Il s'assied en lui tournant le dos. Ces deux hommes-là sont devenus une paire d'amis, et c'est certainement à mon sujet que leurs relations ont pris naissance. Je suis sûre qu'ils causaient de moi quand nous sommes arrivés. Connaissent-ils ma visite à l'appartement de la vieille ? Il me tarde bien de le savoir. Quand j'ai dit que j'étais sortie pour aller louer un logement, Porphyre n'a pas relevé la chose. Mais j'ai bien fait de dire cela. Plus tard, cela pourra servir. Quant au délire, le juge d'instruction n'a pas l'air de couper là-dedans. Il est parfaitement renseigné sur l'emploi de ma soirée. Il ignorait l'arrivée de ma mère. Et cette sorcière qui avait noté au crayon la date de l'engagement. Non, non, l'assurance que vous affectez ne me trompe pas. Jusqu'ici, vous n'avez pas de fait. Vous vous fondez sur de vagues conjectures. Citez-moi donc un fait, si vous pouvez en alléguer un seul contre moi. Cette visite que j'ai faite chez la vieille ne prouve rien. On peut l'expliquer par le délire. Je me rappelle ce que j'ai dit aux ouvriers et aux dvorniks. Savent-ils que je suis allé là ? Je ne m'en irai pas avant d'être fixé là-dessus. Pourquoi suis-je venu ? Mais voilà que je me fâche à présent. C'est cela qui est à craindre. Ah, que je suis irritable ! Après tout, peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. Je reste dans mon rôle de malade. Il va me harceler et me faire perdre la tête. Pourquoi suis-je venu ? Toutes ces idées traversèrent son esprit avec la rapidité de l'éclair. Au bout d'un instant, revint Porphyre Petrovitch. Il paraissait de très bonne humeur. « Hier, au sortir de chez toi, mon ami, j'avais vraiment mal aux cheveux. » commença-t-il en s'adressant à Razoumikine avec un enjouement qu'il n'avait pas montré jusqu'alors. « Mais à présent, c'est passé. »« Eh bien, est-ce que la soirée a été intéressante ?» Je vous ai quitté au plus beau moment. À qui restait la victoire ? Mais à personne, naturellement. Ils ont ergoté à qui mieux sur leur vieille thèse. Figure-toi, Rodia, que la discussion roulait hier sur cette question. Y a-t-il des crimes ou n'y en a-t-il pas ? Et ce qu'ils ont débité de sottises à ce propos ? Qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire ? C'est une question sociale qui n'a pas le mérite de la nouveauté, répondit distraitement Raskolnikov.
La question n'était pas formulée comme cela, observa Porphyre. Pas tout à fait comme ça, c'est vrai, reconnut aussitôt Razoumikine, qui s'était emballé selon son habitude.
Écoute, Rodia, et dis-nous ton opinion, je le veux. Hier, il m'avait mis hors de moi. Et je t'attendais toujours, je leur avais promis ta visite. Les socialistes ont commencé par exposer leur théorie. On sait en quoi elle consiste. Le crime est une protestation contre un ordre social mal organisé, rien de plus. Quand ils ont dit cela, ils ont tout dit. Ils n'admettent pas d'autre cause des actes criminels. Pour eux, l'homme est poussé au crime par l'influence irrésistible du milieu et par elle seule. C'est leur phrase favorite.
« À propos de crime et de milieu, » dit Porphyre Petrovitch en s'adressant à Raskolnikov,
« je me rappelle un travail de vous qui m'a vivement intéressé. Je parle de votre article « Sur le crime ». Je ne me souviens plus bien du titre. J'ai eu le plaisir de le lire il y a 2 mois dans « La parole périodique ».«
Mon article ? Dans « La parole périodique »
demanda avec étonnement Raskolnikov. « En effet, il y a 6 mois, à l'époque où je suis sorti de l'université, j'ai écrit un article à propos d'un livre, mais je l'ai porté à la parole hebdomadaire et non à la parole périodique. Et c'est dans celle-ci qu'il a vu le jour. Sur ces entrefaites, la parole hebdomadaire a cessé de paraître. Voilà comment mon article n'a pas été publié alors. C'est vrai, mais en cessant de paraître, la parole hebdomadaire s'est fondue avec la parole périodique, et c'est ainsi qu'il y a 2 mois, ce dernier journal a publié votre article. Vous ne le saviez pas ? » Raskolnikov l'ignorait. « Eh bien, vous pouvez aller toucher le prix de votre copie. Quel caractère est le vôtre, pourtant ? Vous vivez si retiré que les choses mêmes qui vous intéressent directement n'arrivent pas à votre connaissance. C'est un fait. » « Bravo, Rodia, moi non plus je ne le savais pas !» s'exclama Razoumikine. « Aujourd'hui même, je vais aller demander le numéro au cabinet de lecture. Il y a 2 mois que l'article a été inséré ? À quelle date ? N'importe, je chercherai. En voilà une farce, et il ne le disait pas. « Mais comment avez-vous su que l'article était de moi ? Je l'avais signé d'une initiale. » « Je l'ai appris par hasard, dernièrement. Le rédacteur en chef est de mes amis. C'est lui qui a trahi le secret de votre anonymat. Cet article m'avait beaucoup intéressé. » J'examinais, je m'en souviens, l'état psychologique du coupable durant l'accomplissement de son crime. « Oui, et vous vous appliquiez à démontrer que le criminel, au moment où il accomplit son crime, est toujours un malade. C'est un point de vue très original, mais... ce n'est pas cette partie de votre travail qui m'a le plus intéressée. J'ai remarqué surtout une pensée qui se trouvait à la fin de l'article et que, par malheur, vous vous êtes contenté d'indiquer d'une façon un peu trop sommaire. En un mot, si vous vous le rappelez, vous donniez à entendre qu'il existe sur la terre des hommes qui peuvent, ou, pour mieux dire, qui ont le droit absolu de commettre toutes sortes d'actions coupables et criminelles, des hommes pour qui, en quelque sorte, la loi n'est point faite. » À cette perfide interprétation de sa pensée, Raskolnikov sourit. « Comment ? Quoi ? Le droit au crime ? N'a-t-il pas plutôt voulu dire que le criminel est poussé au crime par l'influence irrésistible du milieu ? » demanda Razoumikine avec une sorte d'inquiétude. « Non, non, il ne s'agit pas de cela, » répondit Porphyre. « Dans l'article en question, les hommes sont divisés en « ordinaires » et « extraordinaires ». Les premiers doivent vivre dans l'obéissance et n'ont pas le droit de violer la loi, attendu qu'ils sont des hommes ordinaires. Les seconds ont le droit de commettre tous les crimes et de transgresser toutes les lois, par cette raison que ce sont des hommes extraordinaires. C'est bien cela que vous dites, si je ne me trompe. Mais comment ? Il est impossible que ce soit cela ! Balbutia Razoumikine, stupéfait. Raskolnikov sourit de nouveau. Il avait compris tout de suite qu'on voulait lui arracher une déclaration de principe, et, se rappelant son article, il n'hésita pas à l'expliquer. « Ce n'est pas tout à fait cela, » commença-t-il d'un ton simple et modeste. « J'avoue, du reste, que vous avez reproduit à peu près exactement ma pensée. Si vous voulez, je dirais même très exactement. » Il prononça ces derniers mots avec un certain plaisir. « Seulement, je n'ai pas dit, comme vous me le faites dire, que les gens extraordinaires sont absolument tenus de commettre toujours toutes sortes d'actions criminelles. Je crois même que la censure n'aurait pas laissé paraître un article conçu dans ce sens. Voici tout bonnement ce que j'ai avancé. L'homme extraordinaire a le droit, non pas officiellement, mais par lui-même, d'autoriser sa conscience à franchir certains obstacles, dans le cas seulement où l'exige la réalisation de son idée, laquelle peut être parfois utile à tout le genre humain. Vous prétendez que mon article n'est pas clair. Je vais essayer de vous l'expliquer.
Peut-être ne me trompais-je pas en supposant que tel est votre désir. Selon moi, si les inventions de Kepler et de Newton, par suite de certaines circonstances, n'avaient pu se faire connaître que moyennant le sacrifice d'une, de 10, de 100 et d'un nombre plus grand de vies qui eussent été des obstacles à ces découvertes, Newton aurait eu le droit. Bien plus, il aurait été obligé de supprimer ses 10, ses 100 hommes, afin que ses découvertes fussent connues du monde entier. Cela, d'ailleurs, ne veut pas dire que Newton avait le droit d'assassiner à son gré n'importe qui ou de commettre chaque jour des vols au marché. Dans la suite de mon article, j'insiste, je m'en souviens, sur cette idée que tous les législateurs et les guides de l'humanité, en commençant par les plus anciens, pour continuer par Lycurgue, Solon, Mahomet, Napoléon, etc., que tous, sans exception, ont été des criminels, car en donnant de nouvelles lois, ils ont par cela même violé les anciennes, observées fidèlement par la société et transmises par les ancêtres. Certainement, ils ne reculaient pas non plus devant l'effusion du sang, dès qu'elle pouvait leur être utile. Il est même à remarquer que presque tous ces bienfaiteurs et ces guides de l'espèce humaine ont été terriblement sanguinaires. En conséquence, non seulement tous les grands hommes, mais tous ceux qui s'élèvent tant soit peu au-dessus du niveau commun, qui sont capables de dire quelque chose de nouveau, doivent, en vertu de leur nature propre, être nécessairement des criminels, plus ou moins, bien entendu. Autrement, il leur serait difficile de sortir de l'ornière. Quant à y rester, ils ne peuvent certainement pas y consentir, et à mon avis, leur devoir même le leur défend. En un mot, vous voyez que jusqu'ici, il n'y a rien de particulièrement neuf dans mon article. Cela a été dit et imprimé 1000 fois. Quant à ma division des gens en ordinaire et extraordinaire, je reconnais qu'elle est un peu arbitraire, mais je laisse de côté la question de chiffres dont je fais bon marché. Je crois seulement qu'au fond, ma pensée est juste. Elle revient à dire que la nature partage les hommes en 2 catégories. L'une inférieure, celle des hommes ordinaires, sorte de matériaux ayant pour seule mission de reproduire des êtres semblables à eux. L'autre supérieure, comprenant les hommes qui possèdent le don ou le talent de faire entendre dans leur milieu un mot nouveau. Les subdivisions naturellement sont innombrables, mais les 2 catégories présentent des traits distinctifs assez tranchés. À la première appartiennent d'une façon générale les conservateurs, les hommes d'ordre qui vivent dans l'obéissance et qui l'aiment. À mon avis, ils sont même tenus d'obéir, parce que c'est leur destination et que cela n'a rien d'humiliant pour eux. Le second groupe se compose exclusivement d'hommes qui violent la loi ou tendent, suivant leurs moyens, à la violer. Leurs crimes sont naturellement relatifs et d'une gravité variable. La plupart réclament la destruction de ce qui est au nom de ce qui doit être. Mais si, pour leur idée, ils doivent verser le sang, passer par-dessus des cadavres, ils peuvent en conscience faire l'un et l'autre. Dans l'intérêt de leur idée, du reste. Notez cela. C'est en ce sens que mon article leur reconnaît le droit au crime. Vous vous rappelez que notre point de départ a été une question juridique. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter beaucoup. Presque jamais la masse ne leur concède ce droit. Elle les décapite et les pend, plus ou moins. Et par là, elle remplit très justement sa mission conservatrice. Jusqu'au jour, il est vrai, où cette même masse érige des statues aux suppliciés et les vénère, plus ou moins. Le premier groupe est toujours le maître du présent. Le second groupe est le maître de l'avenir. L'un conserve le monde et en multiplie les habitants. L'autre meut le monde et le conduit au but. Ceux-ci et ceux-là ont absolument le même droit à l'existence et... Vive la guerre éternelle, jusqu'à la Jérusalem nouvelle, bien entendu.
Ainsi, vous croyez à la Jérusalem nouvelle ?
J'y crois,
répondit avec force Raskolnikov, qui pendant toute sa longue tirade avait tenu les yeux baissés, regardant obstinément un point du tapis.
Et croyez-vous en Dieu ? Pardonnez-moi cette curiosité.
J'y crois, répéta le jeune homme en levant les yeux sur Porphyre.
Et à la résurrection de Lazare ?
Oui, pourquoi me demandez-vous tout cela ?
Vous y croyez littéralement ?
Littéralement ?
Excusez-moi de vous avoir fait ces questions, cela m'intéressait. Mais permettez, je reviens au sujet dont nous parlions tout à l'heure. On ne les exécute pas toujours, il y en a au contraire qui triomphent de leur vivant. Oh oui, cela arrive à quelques-uns. Et alors, ce sont eux qui livrent les autres au supplice ?
S'il le faut, et à vrai dire, c'est le cas le plus fréquent. D'une façon générale, votre observation est pleine de justesse.
Je vous remercie. Mais dites-moi, comment peut-on distinguer ces hommes extraordinaires des hommes ordinaires ? Apportent-ils en naissant certains signes ? Je suis d'avis qu'il faudrait ici un peu plus de précision, une délimitation plus apparente en quelque sorte. Excusez cette inquiétude naturelle chez un homme pratique et bien intentionné. Mais ne pourrait-il, par exemple, porter un vêtement particulier, un emblème quelconque ? Car convenez-en, s'il se produit une confusion, si un individu d'une catégorie se figure qu'il appartient à l'autre et se met, selon son heureuse expression, à supprimer tous les obstacles, alors...
Oh, cela a lieu très souvent. Cette seconde remarque est même plus fine encore que la première.
Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, mais songez que l'erreur est possible seulement dans la première catégorie, c'est-à-dire chez ceux que j'ai appelés, peut-être fort mal à propos, les hommes ordinaires. Nonobstant leur tendance innée à l'obéissance, beaucoup d'entre eux, par suite d'un jeu de la nature, aiment à se prendre pour des hommes d'avant-garde, pour des destructeurs. Ils se croient appelés à faire entendre un mot nouveau, et cette illusion est très sincère chez eux. En même temps, ils ne remarquent pas d'ordinaire les véritables novateurs, ils les méprisent même, comme des gens arriérés et sans élévation d'esprit. Mais selon moi, il ne peut pas y avoir là un sérieux danger, et vous n'avez pas à vous inquiéter, car ils ne vont jamais bien loin. Sans doute, on pourrait parfois les fouetter pour les punir de leur égarement et les remettre à leur place. Mais c'est tout. Encore n'est-il pas besoin ici de déranger l'exécuteur. Eux-mêmes se donnent la discipline, parce que ce sont des gens très moraux. Tantôt ils se rendent ce service les uns aux autres, tantôt ils se fouettent de leurs propres mains. On les voit s'infliger diverses pénitences publiques, ce qui ne laisse pas d'être édifiant. En un mot, vous n'avez pas à vous préoccuper d'eux.
Allons, de ce côté au moins, vous m'avez un peu rassuré. Mais voici encore une chose qui me tracasse. Dites-moi, s'il vous plaît, y a-t-il beaucoup de ces gens extraordinaires qui ont le droit d'égorger les autres ? Sans doute, je suis tout prêt à m'incliner devant eux. Mais ils sont fort nombreux. Avouez que ce sera désagréable, hein ?
Oh, que cela ne vous inquiète pas non plus, poursuivit sur le même ton Raskolnikov.
En général, il naît un nombre singulièrement restreint d'hommes ayant une idée nouvelle, ou même capable de dire quoi que ce soit de nouveau. Il est évident que la répartition des naissances dans les diverses catégories et subdivisions de l'espèce humaine doit être strictement déterminée par quelques lois de la nature. Cette loi, bien entendu, nous est cachée aujourd'hui, mais je crois qu'elle existe et qu'elle pourra même être connue plus tard. Une énorme masse de gens n'est sur la Terre que pour mettre finalement au monde, à la suite de longs et mystérieux croisements de races, un homme qui, entre mille, possédera quelque indépendance. À mesure que le degré d'indépendance augmente, on ne rencontre plus qu'un homme sur 10 000, sur 100 000. Ce sont là des chiffres approximatifs. On compte un génie sur plusieurs millions d'individus, et des milliers de millions d'hommes peut-être passent sur la Terre avant que surgisse une de ces hautes intelligences qui renouvellent la face du monde. Bref, je ne suis pas allé regarder dans la cornue où tout cela s'opère. Mais il y a certainement, et il doit y avoir, une loi fixe. Le hasard ne peut exister ici.
« Mais voyons, vous plaisantez tous les deux ?»
s'écria enfin Razoumikine.
« Vous vous mystifiez réciproquement, n'est-ce pas ? Ils sont là à s'amuser aux dépens l'un de l'autre. Est-ce que tu parles sérieusement, Rodia ?»
Sans lui répondre, Raskolnikov leva vers lui son visage pâle et comme souffrant. En considérant la physionomie calme et attristée de son ami, Razoumikine trouva étrange le ton caustique, provoquant et impoli qu'avait pris Porphyre.
« Eh bien, mon cher, si en effet c'est sérieux, sans doute tu as raison de dire que ce n'est pas neuf, et que cela ressemble à tout ce que nous avons lu et entendu 1000 fois. Mais ce qu'il y a de réellement original là-dedans, ce qui n'appartient réellement qu'à toi, je suis désolé de le dire, c'est ce droit moral de verser le sang que tu accordes et que tu défends, pardonne-moi, avec tant de fanatisme. Voilà, par conséquent, la pensée principale de ton article. Cette autorisation morale de tuer est, à mon avis, quelque chose de plus épouvantable que ne le serait l'autorisation officielle, légale.
C'est très juste. C'est quelque chose de plus épouvantable, en effet, observa Porphyre.
Non, l'expression a dépassé ta pensée, ce n'est pas cela que tu as voulu dire. Je lirai ton article.
En causant, quelquefois on se laisse entraîner.
Tu ne peux pas penser cela. Je lirai.
Et il n'y a rien de tout cela dans mon article. J'ai à peine touché à la question, dit Raskolnikov.
Oui, oui, reprit Porphyre. Maintenant je comprends à peu près votre façon d'envisager le crime. Mais... « excusez mon insistance. Si un jeune homme s'imagine être un Lycurgue ou un Mahomet, futur, cela va sans dire, il commencera par supprimer tous les obstacles qui l'empêcheraient d'accomplir sa mission. « J'entreprends une longue campagne, se dira-t-il, et pour une campagne il faut de l'argent. Là-dessus il se procurera des ressources, vous devinez de quelle manière ?»
Zametov, à ces mots, renifla brusquement dans son coin. Raskolnikov ne leva même pas les yeux sur lui.
« Je suis obligé de reconnaître, répondit-il avec calme, que de tels cas doivent en effet se rencontrer. C'est un piège que l'amour-propre tend aux vaniteux et aux sots. Les jeunes gens surtout s'y laissent prendre.
Vous voyez ? Eh bien !
Eh bien quoi ? Reprit en riant Raskolnikov. « Ce n'est pas ma faute. Cela se voit et se verra toujours. Tout à l'heure, il me reprochait d'autoriser le meurtre, » ajouta-t-il en montrant Razoumikine. « Qu'importe ! Est-ce que la société n'est pas suffisamment protégée par les transportations, les geôles, les juges d'instruction, les galères ? Pourquoi donc s'inquiéter ?
Chercher le voleur.
Et si nous le trouvons ?
Tant pis pour lui.
Au moins vous êtes logique. Mais sa conscience, que lui dira-t-elle ?
Qu'est-ce que cela vous fait ?
C'est une question qui intéresse le sentiment humain.
Celui qui a une conscience souffre en reconnaissant son erreur. C'est sa punition, indépendamment des galères.
Ainsi, demanda en fronçant le sourcil Razoumikine, les hommes de génie, ceux à qui est donné le droit de tuer, ne doivent ressentir aucune souffrance, même lorsqu'ils versent le sang.
Que vient faire ici le mot « doivent » ?
La souffrance ne leur est ni permise ni défendue, libre à eux de souffrir, s'ils ont pitié de leur victime. La souffrance accompagne toujours une intelligence large et un cœur profond. Les hommes vraiment grands doivent, me semble-t-il, éprouver une grande tristesse sur la terre.
ajouta Raskolnikov, pris d'une soudaine mélancolie qui contrastait avec l'allure de la conversation précédente. Il leva les yeux, regarda tous les assistants d'un air rêveur, sourit et prit sa casquette. Il était trop calme, comparativement à l'attitude qu'il avait tantôt en entrant, et il se rendit compte de cela. Tous se levèrent. Porfir Petrovitch revint encore à la charge. « Allons, vous m'injureriez ou non, vous vous fâcheriez, ou vous ne vous fâcheriez pas, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je vous adresse encore une petite question. Vraiment, je suis confus d'abuser ainsi. Pendant que j'y pense, et pour ne pas l'oublier, je voudrais vous faire part d'une petite idée qui m'est venue. Bien, dites votre petite idée, répondit Raskolnikov, debout, pâle et sérieux, en face du juge d'instruction. Voici. Vraiment, je ne sais comment m'exprimer. C'est une idée fort bizarre, psychologique. En composant votre article, il est infiniment probable que vous vous considériez vous-même comme un de ces hommes extraordinaires dont vous parliez. Voyons, n'est-ce pas vrai ?
C'est fort possible, répondit dédaigneusement Raskolnikov.
Razoumikine fit un mouvement. S'il en est ainsi, ne seriez-vous pas décidé vous-même, soit pour triompher d'embarras matériels, soit pour faire progresser l'humanité, ne seriez-vous pas décidé à franchir l'obstacle, par exemple, à tuer et à voler ?
En même temps, il clignait de l'œil gauche et riait silencieusement, tout à fait comme tantôt.
Si j'étais décidé à cela, sans doute je ne le vous dirais pas, répliqua Raskolnikov avec un accent de défi hautain.
Ma question n'avait qu'un but de curiosité littéraire. Je vous l'ai faite à seule fin de mieux pénétrer le sens de votre article.
Oh, que le piège est grossier! Quelle malice cousue de fil blanc! Pensa Raskolnikov écœuré.
Permettez-moi de vous faire observer, répondit-il sèchement, que je ne me crois ni à Mahomet ni à Napoléon, ni aucun personnage de ce genre. Par conséquent, je ne puis vous renseigner sur ce que je ferais si j'étais à leur place.
Allons donc. Qui est-ce qui, chez nous, en Russie, ne se prend pas maintenant pour un Napoléon ? Fit avec une brusque familiarité le juge d'instruction. Cette fois, l'intonation même de sa voix trahissait une arrière-pensée.
Ne serait-ce pas un futur Napoléon qui aurait escoffié notre Alena Ivanovna la semaine dernière ?
Lâcha tout à coup de son coin Zametov. Sans prononcer un mot, Raskolnikov fixa sur Porfir un regard ferme et pénétrant. Les traits de Razoumikine se renfrognèrent. Depuis un certain temps déjà, il semblait se douter de quelque chose. Il promena autour de lui un regard irrité. Pendant une minute, régna un sombre silence. Raskolnikov se prépara à sortir.
« Vous partez déjà ?» dit gracieusement Porfir en tendant la main au jeune homme avec une extrême amabilité.
« Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et quant à votre requête, soyez tranquille. Écrivez dans le sens que je vous ai indiqué. » Ou plutôt, faites mieux. Venez vous-même me trouver un de ces jours. Demain, par exemple. Je serai là, sans faute, à 11 heures. Nous arrangerons tout. Nous causerons un peu. Comme vous êtes un des derniers qui soit allé là, vous pourriez peut-être nous dire quelque chose,
ajouta-t-il d'un air bonhomme.
Vous voulez m'interroger dans les règles ? Demanda d'un ton roide Raskolnikov.
Mais pourquoi donc ? Il ne s'agit pas de cela pour le moment. Vous ne m'avez pas compris. Voyez-vous, je profite de toutes les occasions et j'ai déjà causé avec tous ceux qui avaient mis des objets en gage chez la victime. Plusieurs m'ont fourni d'utiles renseignements. Et comme vous êtes le dernier...
À propos ! S'écria-t-il avec une joie subite.
« C'est bien heureux que j'y pense, j'allais encore l'oublier. »
Ce disant, il se tournait vers Razoumikhine. « Tu me rebattais les oreilles l'autre jour au sujet de ce Nikolatchka. Eh bien, je suis moi-même certain, je suis convaincu de son innocence. » Poursuivit-il en s'adressant de nouveau à Raskolnikov. Mais que faire? Il a fallu aussi inquiéter Mitka. Or, voici ce que je voulais vous demander. En montant alors l'escalier, permettez, c'est entre 7 et 8 heures que vous êtes venu dans la maison.
Oui, répondit Raskolnikov. Et aussitôt après, il regretta cette réponse qu'il aurait pu ne pas faire.
Eh bien, en montant l'escalier entre 7 et 8 heures, n'avez-vous pas vu, au second étage, dans un logement dont la porte était ouverte, vous vous souvenez, n'avez-vous pas vu 2 ouvriers, ou tout au moins l'un d'eux? Ils mettaient l'appartement en couleur. Est-ce que vous ne les avez pas remarqués? C'est très important pour eux.
Des peintres?
Non, je n'en ai pas vu, répondit lentement Raskolnikov en ayant l'air de chercher dans ses souvenirs. Durant une seconde, il tendit violemment tous les ressorts de son esprit pour découvrir au plus vite quel piège cachait la question faite par le juge d'instruction.
Non, je n'en ai pas vu, et je n'ai même pas remarqué de logement ouvert, continua-t-il,
tout heureux d'avoir éventé la mèche. Mais au 4e étage, je me rappelle que l'employé qui logeait en face d'Alena Ivanovna était en train de déménager. Je m'en souviens fort bien. Je me suis rencontré avec des soldats qui emportaient un divan et j'ai dû me ranger contre le mur. Mais des peintres, non, je ne me rappelle pas en avoir vu. Je n'ai même aucun souvenir d'un logement dont la porte fut ouverte. Non, je n'en ai pas vu.
Mais qu'est-ce que tu dis donc? Cria tout à coup Razoumikhine, qui jusqu'alors avait écouté en paraissant réfléchir.
C'est le jour même de l'assassinat que les peintres travaillaient dans cet appartement. Et lui, c'est 2 jours auparavant qu'il est venu dans la maison. Pourquoi donc lui demandes-tu cela?
Tiens, c'est vrai, j'ai embrouillé les dates, s'écria Porphyre en se frappant le front.
Le diable m'emporte, cette affaire me fait perdre la tête, ajouta-t-il en manière d'excuse en s'adressant à Raskolnikov. Il est si important pour nous de savoir si quelqu'un les a vus dans l'appartement entre 7 et 8 heures que, sans y réfléchir davantage, j'avais cru pouvoir obtenir de vous cet éclaircissement. J'avais tout à fait confondu les jours.
« Il faudrait faire plus d'attention, » grommela Razoumikhine.
Ces derniers mots furent dits dans l'antichambre. Porphyre reconduisit très aimablement ses visiteurs jusqu'à la porte. Ceux-ci étaient sombres et moroses lorsqu'ils sortirent de la maison, et ils firent plusieurs pas sans échanger une parole. Raskolnikov respirait comme un homme qui vient de traverser une épreuve pénible. Chapitre 6.
Je ne le crois pas, je ne puis pas le croire, répétait Razoumikhine, qui faisait tous ses efforts pour repousser les conclusions de Raskolnikov.
Ils étaient déjà près de la maison Bakaleyev, où depuis longtemps les attendaient Pulcheri Alexandrovna et Dounia. Dans la chaleur de la discussion, Razoumikhine s'arrêtait à chaque instant au milieu de la rue. Il était fort agité, car c'était la première fois que les 2 jeunes gens s'entretenaient de cela autrement qu'à mots couverts.
« Ne le crois pas si tu veux, »
répondit Raskolnikov avec un sourire froid et indifférent.
« Toi, selon ton habitude, tu n'as rien remarqué, mais moi, j'ai pesé chaque mot. »«
Tu es enclin à la défiance, voilà pourquoi tu découvres partout des arrière-pensées.
En effet, je reconnais que le ton de Porphyre était assez étrange, et c'est surtout ce coquin de Zametov. Tu as raison. Il y avait en lui un je ne sais quoi, mais comment se le fait-il? Comment?
Il aura changé d'avis depuis hier.
Non, tu te trompes. S'ils avaient cette stupide idée, ils auraient au contraire pris soin de la dissimuler. Ils auraient caché leur jeu pour t'inspirer une fallacieuse confiance, en attendant le moment de démasquer leur batterie. Dans l'hypothèse où tu te places, leur façon d'agir aujourd'hui serait aussi maladroite qu'effrontée. S'ils avaient des faits, j'entends des faits sérieux, ou des présomptions quelque peu fondées, alors sans doute ils s'efforceraient de cacher leur jeu, dans l'espoir d'obtenir de nouveaux avantages sur moi. D'ailleurs, ils auraient fait depuis longtemps une perquisition à mon domicile. Mais ils n'ont pas de preuves, pas une seule. Tout se réduit pour eux à des conjectures gratuites, à des suppositions qui ne s'appuient sur rien de réel. C'est pourquoi ils ont recours à l'effronterie. Peut-être ne faut-il voir en cela que le dépit de Porphyre, qui enrage de n'avoir point de preuves. Peut-être aussi a-t-il ses intentions. Il paraît intelligent. Il se peut qu'il ait voulu m'effrayer. Il a sa psychologie à lui, mon ami. Du reste, toutes ces questions sont répugnantes à éclaircir. Laissons cela. C'est odieux. Odieux. Je te comprends. Mais, puisque nous avons abordé franchement ce sujet, et je trouve que nous avons bien fait, je n'hésiterai plus à t'avouer que depuis longtemps, j'avais remarqué cette idée chez eux. Bien entendu, elle osait à peine se formuler, elle flottait dans leur esprit à l'état de doute vague. Mais c'est déjà trop qu'ils aient pu l'accueillir même sous cette forme. Et qu'est-ce qui a éveillé de si abominables soupçons? Si tu savais dans quelle fureur cela m'a mis. Quoi? Voilà un pauvre étudiant aux prises avec la misère et l'hypocondrie, à la veille d'une maladie grave qui déjà peut-être existe chez lui. Voilà un jeune homme défiant, rempli d'amour-propre, ayant conscience de sa valeur, depuis 6 mois renfermé dans sa chambre où il ne voit personne. Il se présente vêtu de haillons, chaussé de bottes sans semelles, devant de misérables policiers dont il subit les insolences. On lui réclame à brûle-pourpoint le paiement d'une lettre de change protestée. La salle est bourrée de monde. Il y fait une chaleur de 30 degrés rayés au mur. L'odeur de la couleur à l'huile achève de rendre l'atmosphère insupportable. Le malheureux entend parler de l'assassinat d'une personne chez qui il est allé la veille, et il a l'estomac vide. Mais dans de telles conditions, comment ne s'évanouirait-on pas? Et c'est sur cette syncope que tout repose. Voilà le point de départ de l'accusation. Que le diable les emporte! Je comprends que cela soit vexant. Mais à ta place, Rodia, je leur rirai au nez à tous. Ou mieux, je leur enverrai mon mépris en pleine figure sous forme de jet de salive. C'est ainsi que j'en finirai avec eux. Courage, crache là-dessus, c'est honteux. Il a pourtant débité sa tirade avec conviction, pensa Raskolnikov. Cracher là-dessus, c'est bon à dire, mais demain encore un interrogatoire, répondit-il tristement. « Faudra-t-il que je m'abaisse jusqu'à leur donner des explications ? Je m'en veux déjà d'avoir consenti à causer avec Zametov hier au tractir. Mais que le diable les emporte ! J'irai moi-même chez Porphyre. C'est mon parent. J'en profiterai pour lui tirer les vers du nez. Il faudra qu'il me fasse sa confession complète. Et quant à Zametov... » « Enfin, le poisson a mordu !» se dit Raskolnikov. « Attends ! » cria Razoumikine en saisissant tout à coup son ami par l'épaule. « Attends, tu divaguais tout à l'heure. Réflexion faite, je suis convaincue que tu divaguais. Où vois-tu une ruse? Tu dis que la question relative aux ouvriers cachait un piège. Raisonne un peu. Si tu avais fait cela, aurais-tu été assez sot pour dire que tu avais vu les peintres travailler dans le logement du second? Au contraire, lors même que tu les aurais vus, tu l'aurais nié. Qui donc fait des aveux destinés à le compromettre? Si j'avais fait cette chose, je n'aurais pas manqué de dire que j'avais vu les ouvriers, reprit Raskolnikov, qui semblait ne poursuivre cette conversation qu'avec un violent dégoût. Mais pourquoi donc dire des choses nuisibles à sa cause? Parce qu'il n'y a que les moujiks et les gens les plus bornés qui nient tout de parti pris. Un prévenu tant soit peu intelligent avoue autant que possible tous les faits matériels dont il essaierait vainement de détruire la réalité. Seulement, il les explique d'une autre manière, il en modifie la signification, il les présente sous un jour nouveau.
selon toute probabilité, Porphyre comptait que je répondrais ainsi. Il croyait que, pour donner plus de vraisemblance à mes déclarations, j'avouerais avoir vu les ouvriers, sauf à expliquer ensuite le fait dans un sens favorable à ma cause. Mais il t'aurait répondu tout de suite que l'avant-veille du crime, les ouvriers n'avaient pas pu se trouver là, et que par conséquent, tu avais été dans la maison le jour même de l'assassinat, entre 7 et 8 heures. Tu aurais été collé. Il comptait que je n'aurais pas le temps de réfléchir, et que, pressé de répondre de la façon la plus vraisemblable, j'oublierais cette circonstance, l'impossibilité de la présence des ouvriers dans la maison l'avant-veille du crime. Mais comment oublier cela? Rien de plus facile. Ces points de détail sont l'écueil des malins. C'est en répondant là-dessus qu'ils se coupent dans les interrogatoires. Plus un homme est fin, moins il soupçonne le danger des questions insignifiantes. Porphyre le sait bien. Il est loin d'être aussi bête que tu le crois. S'il en est ainsi, c'est un coquin. Raskolnikov ne put s'empêcher de rire. Mais au même instant, il s'étonna d'avoir donné la dernière explication avec un véritable plaisir. Lui qui, jusqu'alors, n'avait soutenu la conversation qu'à contre-cœur, et parce que le but à atteindre lui en faisait une nécessité. « Est-ce que je prendrai goût à ces questions ? » pensa-t-il. Mais presque en même temps, il fut saisi d'une inquiétude soudaine qui devint bientôt intolérable. Les deux jeunes gens se trouvaient déjà à la porte de la maison Bakaleïev. « Entre seul, » dit brusquement Raskolnikov, « je vais revenir tout de suite. »« Où vas-tu ? Nous voici arrivés. »« J'ai une course à faire. Je serai ici dans une demi-heure. Tu le leur diras. » « Eh bien, je t'accompagne. »« Ah, ça, as-tu juré, toi aussi, de me persécuter jusqu'à la mort ?» Cette exclamation fut proférée avec un tel accent de fureur et d'un air si désespéré que Razoumikine n'osa insister. Il resta quelque temps sur le perron, suivant d'un regard sombre Raskolnikov qui marchait à grands pas dans la direction de son péréoulok. Enfin, après avoir grincé des dents, serré ses poings et s'être promis de pressurer Porphyre comme un citron aujourd'hui même, il monta chez les dames pour rassurer Pulchérie Alexandrovna, déjà inquiète de cette longue absence. Quand Raskolnikov arriva devant sa maison, ses tempes étaient humides de sueur et il respirait péniblement. Il monta l'escalier 4 à 4, entra dans sa chambre qui était restée ouverte et immédiatement s'y enferma au crochet. Ensuite, éperdu de frayeur, il courut à sa cachette, fourra sa main sous la tapisserie et explora le trou en tous sens. N'y trouvant rien, après avoir tâté dans tous les coins et recoins, il se releva et poussa un soupir de soulagement. Tantôt, au moment où il approchait de la maison Bakaleïev, l'idée lui était venue tout à coup qu'un des objets volés avait pu se glisser dans une fente du mur. Si un jour on allait retrouver là une chaîne de montre, un bouton de manchette, ou même un des papiers qui enveloppaient les bijoux et qui portaient des annotations écrites de la main de la vieille, quelle terrible pièce de conviction ce serait contre lui! Il restait comme plongé dans une vague rêverie, et un sourire étrange, presque hébété, errait sur ses lèvres. À la fin, il prit sa casquette et sortit sans bruit de la chambre. Ses idées s'embrouillaient. Pensif, il descendit l'escalier et arriva sous la porte cochère. « Tenez, le voilà !» cria une voix forte. Le jeune homme leva la tête. Le dvornik, debout sur le seuil de sa loge, montrait Raskolnikov à un homme de petite taille et de tournure bourgeoise. Cet individu portait une sorte de kala et un gilet. De loin, on l'eût pris pour une paysanne. Sa tête, coiffée d'une casquette graisseuse, s'inclinait sur sa poitrine, et il paraissait tout voûté. À en juger par son visage ridé et flétri, il devait avoir dépassé la cinquantaine. Ses petits yeux avaient quelque chose de dur et de mécontent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Raskolnikov en s'approchant du dvornik. Le bourgeois le regarda de côté. l'examina longuement, puis, sans proférer une parole, tourna le dos et s'éloigna de la maison.
« Mais qu'est-ce que c'est ? »
cria Raskolnikov. « Eh bien, c'est un homme qui est venu s'informer si un étudiant ne demeurait pas ici. Il vous a nommé et a demandé chez qui vous logiez. Pendant ce temps-là, vous êtes descendu, je vous ai montré, et il est parti, voilà. » Le dvornik était aussi un peu étonné. Pas trop, du reste. Après avoir réfléchi un moment, il rentra dans sa loge. Raskolnikov s'élança sur les traces du bourgeois. À peine sorti de la maison, il l'aperçut, longeant l'autre côté de la rue. L'inconnu marchait d'un pas lent et régulier. Il tenait les yeux fixés à terre et semblait songeur. Le jeune homme l'eut bientôt rattrapé. Mais pendant quelque temps, il se borna à lui emboîter le pas. À la fin, il se plaça à ses côtés et regarda obliquement son visage. Le bourgeois le remarqua aussitôt, lui lança un coup d'œil rapide, puis baissa de nouveau les yeux. Pendant une minute, tous deux cheminèrent ainsi, côte à côte, sans se rien dire. « Vous m'avez demandé, chez le dvornik ?» commença Raskolnikov sans élever la voix. Le bourgeois ne fit aucune réponse et ne regarda même pas celui qui lui parlait. Il y eut un nouveau silence. « Vous êtes venu me demander et vous vous taisez. Qu'est-ce que cela veut dire ?» reprit Raskolnikov d'une voix entrecoupée. On eût dit que les mots avaient peine à sortir de sa bouche. Cette fois, le bourgeois leva les yeux et regarda le jeune homme d'un air sinistre. « Assassin !» dit-il brusquement d'une voix basse, mais nette et distincte. Raskolnikov marchait à côté de lui. Il sentit tout à coup ses jambes faiblir et un froid lui courir dans le dos. Durant une seconde, son cœur eut comme une défaillance, puis se mit à battre avec une violence extraordinaire. Les deux hommes firent ainsi une centaine de pas, à côté l'un de l'autre, sans proférer un seul mot. Le bourgeois ne regardait pas son compagnon de route.
« Mais qu'est-ce que vous... Quoi ? Qui est un assassin ?»
balbutia Raskolnikov d'une voix presque inintelligible. « C'est toi qui es un assassin !» prononça l'autre en accentuant cette réplique avec plus de netteté et d'énergie que jamais. En même temps, il semblait avoir sur les lèvres le sourire de la haine triomphante, et il regardait fixement le visage pâle de Raskolnikov, dont les yeux étaient devenus vitreux. Tous deux approchaient alors d'un carrefour. Le bourgeois prit une rue à gauche et continua sa route sans regarder derrière lui. Raskolnikov le laissa s'éloigner, mais le suivit longtemps des yeux. Après avoir fait 50 pas, l'inconnu se retourna pour observer le jeune homme, toujours cloué à la même place. La distance ne permettait pas de bien voir. Toutefois, Raskolnikov crut remarquer que cet individu le regardait encore avec son sourire de haine froide et triomphante. Transi d'effroi, les jambes tremblantes, il regagna tant bien que mal sa demeure et monta dans sa chambre. Quand il eut déposé sa casquette sur la table, il resta debout, immobile, pendant 10 minutes. Puis, à bout de force, il se coucha sur son divan et s'y étendit languissamment avec un faible soupir. Au bout d'une demi-heure, des pas pressés se firent entendre. En même temps, Raskolnikov perçut la voix de Razoumikine. Il ferma les yeux et fit semblant de dormir. Razoumikine ouvrit la porte et pendant quelques minutes resta sur le seuil, paraissant ne savoir à quoi se résoudre. Ensuite, il entra tout doucement dans la chambre et s'approcha avec précaution du divan. « Ne l'éveille pas, laisse-le dormir tout son sou, il mangera plus tard !» dit à voix basse Nastasia. « Tu as raison, » répondit Razoumikine. Ils sortirent sur la pointe des pieds et poussèrent la porte. Une demi-heure s'écoula encore, puis Raskolnikov ouvrit les yeux, se replaça sur le dos par un brusque mouvement et mit ses mains derrière sa tête. « Qui est-il ? Quel est cet homme sorti de dessous terre ? Où était-il ? Et qu'a-t-il vu ? Il a tout vu, c'est indubitable. Où se trouvait-il donc alors? Et de quel endroit a-t-il vu cette scène? Comment se fait-il qu'il n'ait pas donné plutôt signe de vie? Et comment a-t-il pu voir? Est-ce que c'est possible? Continua Raskolnikov, pris d'un frisson glacial. Et les crins que Nicolas a trouvés derrière la porte? Est-ce qu'on pouvait aussi s'attendre à cela? Il sentait qu'il s'affaiblissait, que ses forces physiques l'abandonnaient, et il en éprouva un violent dégoût de lui-même. « Je devais savoir cela, » pensa-t-il avec un sourire amer. « Comment ai-je osé, me connaissant, prévoyant ce qui m'arriverait, comment ai-je osé prendre une hache et verser le sang? J'étais tenu de savoir cela d'avance, et d'ailleurs je le savais, » murmura-t-il, désespéré. Par moments, il s'arrêtait devant une pensée. « Non, ces gens-là ne sont pas ainsi bâtis. Le vrai maître, à qui tout est permis, canonne Toulon, massacre à Paris, oublie une armée en Égypte, perd 500 000 d'hommes dans la campagne de Moscou, et se tire d'affaires à Vilna par un calembour. Après sa mort, on lui dresse des statues. C'est donc que tout lui est permis. Non, ces gens-là ne sont pas faits de chair, mais de bronze. » Une idée qui lui vint brusquement à l'esprit le fit presque rire. Napoléon, les pyramides, Waterloo, et une vieille femme, veuve d'un registrateur du collège, une ignoble usurière qui a un coffre en maroquin rouge sous son lit. Comment Porfir Petrovitch digérerait-il un pareil rapprochement? L'esthétique s'y oppose. Est-ce que Napoléon se serait glissé sous le lit d'une vieille femme? Dirait-il. Et quelle niaiserie! De temps à autre, il sentait qu'il délirait presque. Il était dans un état d'exaltation fiévreuse. La vieille ne signifie rien, se disait-il par accès. Mettons que la vieille soit une erreur. Il ne s'agit pas d'elle. La vieille n'a été qu'un accident. Je voulais sauter le pas au plus tôt. Ce n'est pas une créature humaine que j'ai tuée. C'est un principe. J'ai bien tué le principe, mais je n'ai pas su passer par-dessus. Je suis resté en deçà. Je n'ai su que tuer. Et encore, n'y ai-je pas trop bien réussi à ce qu'il paraît? Un principe? Pourquoi tantôt cet imbécile de Razoumikine attaquait-il les socialistes? Ce sont de laborieux hommes d'affaires, et ils s'occupent du bonheur commun. Non, je n'ai qu'une vie. Je ne veux pas attendre le bonheur universel. Je veux vivre moi-même. Autrement, mieux vaut ne pas exister. Je ne veux pas passer à côté d'une mère affamée en serrant mon rouble dans ma poche, sous prétexte qu'un jour tout le monde sera heureux. J'apporte, dit-on, ma pierre à l'édifice du bonheur universel, et cela suffit pour mettre mon cœur en paix. Pourquoi donc m'avez-vous oublié? Puisque je n'ai qu'un temps à vivre, je veux ma part de bonheur tout de suite. Eh, je suis une vermine esthétique, rien de plus, ajouta-t-il soudain, en riant comme un aliéné. Et il s'attacha à cette idée. Il prit un âcre plaisir à la fouiller en tous sens, à la retourner sous toutes ses faces. Oui, en effet, je suis une vermine. Par cela seul d'abord que je médite maintenant sur la question de savoir si j'en suis une. Ensuite, parce que pendant tout un mois, j'ai ennuyé la divine providence, la prenant sans cesse à témoin que je me décidais à cette entreprise, non pour me procurer des satisfactions matérielles, mais en vue d'un but grandiose. En troisième lieu, parce que, dans l'exécution, j'ai voulu procéder avec autant de justice que possible. Entre toutes les vermines, j'ai choisi la plus nuisible, et en la tuant, je comptais prendre chez elle juste ce qu'il me fallait pour assurer mes débuts dans la vie, ni plus ni moins. Le reste serait allé au monastère à qui elle avait légué sa fortune. Je suis définitivement une vermine, ajouta-t-il en grinçant des dents, parce que je suis peut-être encore plus vile et plus ignoble moi-même que la vermine tuée, et parce que je pressentais qu'après l'avoir tuée,
je me dirai cela. Y a-t-il rien de comparable à une pareille terreur? Oh, platitude! Oh, platitude! Oh, comme je comprends le prophète à cheval, le cimeterre au poing. Allah le veut, obéis, tremblante créature. Il a raison. Il a raison, le prophète, quand il range une belle troupe en travers de la rue et qu'il frappe indistinctement sur le juste et le coupable, sans même daigner s'expliquer. Obéis, tremblante créature, et garde-toi de vouloir, parce que ce n'est pas ton affaire. Oh, jamais, jamais je ne pardonnerai à la vieille. Ses cheveux étaient trempés de sueur, ses lèvres desséchées s'agitaient, son regard immobile ne quittait pas le plafond. Ma mère, ma sœur, combien je les aimais! D'où vient que maintenant je les déteste? Oui, je les déteste, je les hais physiquement, je ne puis les supporter auprès de moi. Tantôt, je me suis approchée de ma mère et je l'ai embrassée, je m'en souviens. L'embrasser et se dire que si elle savait... Oh, combien je hais à présent la vieille! Je crois que si elle revenait à la vie, je la tuerais encore une fois. Pauvre Élisabeth, pourquoi le hasard l'a-t-il amenée là? C'est étrange pourtant, je pense à peine à elle, comme si je ne l'avais pas tuée. Élisabeth, Sonia, pauvre, douce créature aux yeux doux, chère, pourquoi ne pleure-t-elle pas? Pourquoi ne gémisse-t-elle pas? Victimes résignées, elles acceptent tout en silence. Sonia, Sonia, douce Sonia. Il perdit conscience de lui-même, et à sa grande surprise, s'aperçut qu'il était dans la rue. La soirée était déjà avancée. Les ténèbres s'épaississaient, la pleine lune brillait d'un éclat de plus en plus vif, mais l'atmosphère était étouffante. On rencontrait quantité de gens dans les rues. Les ouvriers et les hommes occupés regagnaient leur logis, les autres se promenaient. Il y avait dans l'air comme une odeur de chaux, de poussière, d'eau croupissante. Raskolnikov marchait, chagrin et préoccupé. Il se rappelait fort bien qu'il était sorti de chez lui avec un but, qu'il avait à faire quelque chose d'urgent. Mais quoi? Il l'avait oublié. Brusquement, il s'arrêta et remarqua que sur l'autre trottoir, un homme lui faisait un signe de la main. Il traversa la rue pour le rejoindre, mais soudain, cet homme fit volte-face et, comme si de rien n'était, continua sa marche, la tête baissée, sans se retourner, sans paraître appeler Raskolnikov. « Me serais-je trompé ?» pensa ce dernier. Toutefois, il se mit à le suivre. Avant d'avoir fait 10 pas, il le reconnut tout à coup et fut saisi de frayeur. C'était le bourgeois de tantôt, toujours aussi voûté, toujours vêtu de la même robe de chambre. Raskolnikov, dont le cœur battait avec force, marchait à quelque distance. Ils entrèrent dans un péréouloc. L'homme ne se retournait toujours pas. « Sait-il que je suis derrière lui ?» se demandait Raskolnikov. Le bourgeois franchit le seuil d'une grande maison. Raskolnikov s'avança vivement vers la porte et se mit à regarder, pensant que peut-être ce mystérieux personnage se retournerait et l'appellerait. Effectivement, quand le bourgeois fut dans la cour, il se retourna brusquement et parut encore appeler du geste le jeune homme. Celui-ci se hâta d'entrer dans la maison. Mais, arrivé dans la cour, il n'y trouva plus le bourgeois. Présumant que cet homme avait dû prendre le premier escalier, Raskolnikov s'y engagea après lui. En effet, 2 étages plus haut, on entendait résonner sur les marches des pas lents et réguliers. Chose étrange, il lui semblait reconnaître cet escalier. Voilà la fenêtre du premier étage. À travers la vitre filtrait, mystérieuse et triste, la lumière de la lune. Voici le second étage. Bah, c'est l'appartement où travaillaient les peintres. Comment donc n'avait-il pas reconnu tout de suite la maison? Les pas de l'homme qui le précédait cessèrent de se faire entendre. Il s'est par conséquent arrêté. Ou caché quelque part. Voici le troisième étage. Monterai-je plus haut? Quel silence! Ce silence est même effrayant. Néanmoins, il poursuivit l'ascension de l'escalier. Le bruit de ses propres pas lui faisait peur. Mon Dieu, qu'il fait sombre! Le bourgeois s'est assurément caché ici, dans un coin. Ah! Le logement qui donnait sur le carré était grand ouvert. Raskolnikov réfléchit un instant, puis entra. L'antichambre était complètement vide et fort obscure. Le jeune homme passa dans le salon en marchant sur la pointe des pieds. La lumière de la lune donnait en plein sur cette pièce et l'éclairait tout entière. L'ameublement n'avait pas changé. Raskolnikov retrouva à leurs anciennes places les chaises, la glace, le divan jaune et les dessins encadrés. Par la fenêtre, on apercevait la lune, dont l'énorme face ronde était d'un rouge cuivré. Il attendit longtemps au milieu d'un profond silence. Tout à coup, il entendit un bruit sec comme celui que fait un copeau qu'on brise. Puis tout redevint silencieux. Une mouche éveillée vint en volant se heurter contre la vitre et se mit à bourdonner plaintivement. Au même instant, dans le coin, entre la petite armoire et la fenêtre, il crut remarquer qu'un manteau de femme était pendu au mur. « Pourquoi ce manteau est-il là ? » pensa-t-il. « Il n'y était pas auparavant. » Il s'approcha tout doucement et soupçonna que derrière ce vêtement, quelqu'un devait être caché. Écartant avec précaution le manteau, il vit qu'il y avait là une chaise. Sur cette chaise, dans le coin, était assise la vieille. Elle était comme pliée en deux et tenait la tête tellement baissée qu'il ne put pas apercevoir son visage. Mais c'était bien Alena Ivanovna. « Elle a peur !» se dit Raskolnikov. Il dégagea tout doucement sa hache du nœud coulant et à deux reprises en frappa la vieille sur le sinciput. Mais, chose étrange, elle ne chancela même pas sous les coups. On eût dit qu'elle était en bois. Stupéfait, le jeune homme se pencha vers elle pour l'examiner, mais elle baissa encore plus la tête. Il se courba alors jusqu'au plancher, la regarda de bas en haut, et, en apercevant son visage, fut épouvanté. La vieille riait. Oui, elle riait d'un rire silencieux, faisant tous ses efforts pour qu'on ne l'entendît pas. Tout à coup, il sembla à Raskolnikov que la porte de la chambre à coucher était ouverte et que là aussi on riait, on chuchotait. La rage s'empara de lui. De toute sa force, il commença à frapper sur la tête de la vieille. Mais, à chaque coup de hache, les rires et les chuchotements de la chambre à coucher se percevaient plus distinctement. Quant à la vieille, elle se tordait. Il voulut s'enfuir, mais toute l'antichambre était déjà pleine de gens. La porte donnant sur le carré était ouverte. Sur le palier, sur l'escalier, depuis le haut jusqu'en bas, se trouvaient quantité d'individus. Tous regardaient, mais tous s'étaient cachés et attendaient en silence. Son cœur se serra, ses pieds semblaient cloués au plancher. Il voulut crier et s'éveilla. Il respira avec effort, mais il crut n'avoir point cessé de rêver lorsqu'il aperçut, debout sur le seuil de sa porte grande ouverte, un homme qu'il ne connaissait nullement et qui le considérait avec attention. Raskolnikov n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir tout à fait les yeux qu'il les referma soudain. Couché sur le dos, il ne bougea pas. « Est-ce la continuation de mon rêve ? » pensa-t-il. Et il souleva presque imperceptiblement ses paupières pour jeter un timide regard sur l'inconnu. Celui-ci, toujours à la même place, ne cessait pas de l'observer. Tout à coup, il franchit le seuil, ferma tout doucement la porte derrière lui, s'approcha de la table et, après avoir attendu une minute, s'assit sans bruit sur une chaise près du divan. Durant tout ce temps, il n'avait pas quitté des yeux Raskolnikov. Ensuite, il déposa son chapeau par terre, à côté de lui, appuya ses deux mains sur la pomme de sa canne et laissa tomber son menton sur ses mains, comme quelqu'un qui se prépare à attendre longtemps.
Autant que Raskolnikov avait pu en juger par un regard furtif, cet homme n'était plus jeune. Il avait l'air robuste et portait une barbe épaisse, d'un blond presque blanc. 10 minutes s'écoulèrent ainsi. On voyait encore clair, mais il se faisait tard. Dans la chambre régnait le plus profond silence. De l'escalier même ne venait aucun bruit. On n'entendait que le bourdonnement d'une grosse mouche qui, en volant, s'était heurtée contre la fenêtre. À la fin, cela devenait insupportable. Raskolnikov n'y put tenir et s'assit tout à coup sur son divan. « Allons, parlez, qu'est-ce que vous voulez ?»«
Je savais bien que votre sommeil n'était qu'une frime, » répondit l'inconnu avec un sourire tranquille.
« Permettez-moi de me présenter. Arkad Ivanovitch Svidrigaïlov. »